Donc oui, 1 Corinthiens, donc chapitre 12, hein, et verset 7, où nous voyons que le Seigneur a donné à chaque croyant donc la manifestation de l'Esprit, ces dons spirituels qui sont à employer donc pour le service dans l'Église. Mais comme je disais, la grande question qui demeure pour beaucoup de chrétiens, c'est comment identifier ces dons spirituels? Comment savoir si j'ai tel don ou autre don? 1 Pierre chapitre 4, les versets 11, 10 à 11, comme je disais, Pierre nous rappelle hein, qu'en tant que bon dispensateur, bien nous devons employer ces diverses grâces que Dieu nous a accordées pour le service des autres. Et donc verset 11, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Comment savoir le don que Dieu nous a accordé par l'Esprit Saint? Et je crois que déjà là aussi, il y a eu malheureusement beaucoup de confusion dans le christianisme au sujet des dons, parce que souvent, on a tendance à confondre un don spirituel avec un talent. Elles ne sont pas les mêmes choses. Et donc, tout d'abord, ce que j'aimerais faire, c'est mettre cette distinction, établir cette distinction entre des talents et les dons spirituels dont Paul nous parle, dont Pierre nous parle dans la parole de Dieu. D'abord, il y a des capacités naturelles que Dieu donne à des personnes à la naissance. Ça va inclure des éléments comme quotient intellectuel. On n'a pas, peut-être pas tous le même quotient intellectuel. Certains ont plus de facilité dans des domaines que d'autres. Certains, ce sont des matheux, d'autres, ce sont des littéraires, d'autres sont doués pour la musique, d'autres sont doués pour les choses manuelles, d'autres sont doués pour faire plein d'autres choses. Mais voilà, il y a ces capacités qui sont naturelles, des aptitudes hein, qui existent, et puis il y a aussi des capacités acquises. C'est pas dès la naissance que on a forcément cette capacité d'apprendre une nouvelle langue. Il y a des formations, il y a l'éducation, l'apprentissage, c'est bon comme cuisiner, coudre, conduire une voiture, apprendre à jouer d'un instrument. Et donc même si, eh bien, nous avons tendance à tenir ces compétences comme acquises, c'est moi, c'est Bibi qui est capable d'apprendre une nouvelle langue, c'est moi qui suis capable d'apprendre à jouer un nouvel instrument. Même si ce sont des capacités naturelles, nous ne devons pas négliger le fait que ce sont des bénédictions que Dieu accorde. Mais il ne s'agit pas de ces dons spirituels. C'est une grâce de Dieu, c'est un don de Dieu, mais quand on parle des dons spirituels dans les Écritures, on parle spécifiquement de ces dons du Saint-Esprit qu'il accorde à chacun pour l'utilité commune. Les dons spirituels sont donc une catégorie bien à part. Même si on va retrouver des éléments qui, ben tiens, ça on retrouve dans le monde, d'administrer. Il y a des gens qui ont ces compétences-là, ils ont suivi des cours, ils ont eu des diplômes pour apprendre à gérer une entreprise, etc. Ils sont capables, de remplir toutes ces tonnes de formulaires que le gouvernement demande. Il y a cet acquis, par l'étude, par la formation. Mais même s'il y a cette similitude-là, la parole de Dieu nous parle de ces dons spirituels comme étant uniques, comme étant quelque chose que Dieu accorde à certains dans l'Église pour l'accomplissement de son œuvre. Et ces choses sont uniques à l'Église. On ne les retrouve pas ailleurs dans le même sens que les Écritures en parlent. Une personne, par exemple, quelle que soit sa croyance en Dieu ou en Christ, se voit attribuer un talent naturel, résultant parfois d'une, moi je crois aussi, d'une combinaison génétique. Parfois il y a de l'hérédité là-dedans. Moi je l'explique comme ça. Je regarde à mon fils Abel et sa facilité pour la musique, c'est pas de moi qu'il tient ça. Je regarde un peu en arrière de l'autre côté de la famille, je vois mon épouse, je vois mes beaux-parents, la famille dans son ensemble qui est une famille de musiciens. Je dis, bon, il y a probablement quelque chose là-dedans, hein, inscrit dans la génétique, qui donne une certaine facilité à certains dans une famille. Mais les dons spirituels, ce n'en est pas ainsi. Ce n'est pas le résultat d'une capacité naturelle, personnelle, ni même d'un entraînement, d'une formation. Même si on peut donc développer ses talents et ensuite orienter sa vie pour une profession dans ce sens-là, les dons spirituels ont été donnés par le Saint-Esprit selon sa volonté pour l'édification de l'Église. Et donc, ils ne peuvent venir que de lui. Et ça, c'est important à reconnaître. C'est important à reconnaître, comme on l'a vu, que les dons spirituels nous ont été accordés pour servir dans l'Église, et comme on l'a lu, pour qu'en toute chose, eh bien, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance. C'est important pour nous de reconnaître que ce soit une capacité naturelle ou des dons spirituels, nous sommes appelés en tant que chrétiens à faire toutes choses pour la gloire de Dieu. Et donc cela requiert pour nous, oui, la sagesse de reconnaître, d'admettre que ces choses nous viennent de Dieu. Hein, même si j'ai une capacité intellectuelle pour comprendre des passages ou analyser les textes et des choses comme ça, je reconnais que c'est Dieu qui me donne cette grâce-là. Et je le remercie pour ces choses. Il arrive, et on l'a vu, et on le voit même dans les Écritures, que donc Dieu accorde à certaines personnes certains talents, qui ne sont pas des dons spirituels, mais des talents qui peuvent être employés pour son service également. Moi, je connais une sœur en Christ qui, par exemple, elle a un talent pour l'écriture, et elle a composé de nombreux poèmes qu'elle partageait avec les frères et sœurs dans l'Église. Et c'est une bénédiction. Ce n'est pas un don spirituel, forcément, mais c'est un talent qu'elle a choisi de mettre au service du Seigneur. Dans le livre de l'Exode, Exode au chapitre 31, Exode 31, les versets 1 à 6, nous voyons que l'Éternel parla à Moïse et lui dit: « Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. » Dieu a choisi quelqu'un, une personne en particulier, à qui il va accorder quelque chose. Et il dit: « Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver des pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamac, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. » Donc on voit que là aussi, même dans l'Ancien Testament, Dieu il accordait une grâce à certaines personnes, des talents manuels, des talents intellectuels, pour accomplir le plan de Dieu pour Israël. Moi, ce que je note aussi, c'est que ce que Dieu a fait tout d'abord, c'était de les avoir remplis du Saint-Esprit. Hein, pour les aider à accomplir ces choses et à reconnaître aussi que c'est la grâce de Dieu qui permet cela. Il faut se rappeler aussi une chose, c'est que dans l'Ancienne Alliance également, le Saint-Esprit n'était pas accordé comme aujourd'hui, hein, dès la nouvelle naissance, hein, où le Saint-Esprit nous marque de son sceau, hein, nous sommes sauvés. Dans l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit pouvait venir sur une personne, puis en repartir, et ainsi de suite. Hein, c'est pour ça qu'on a David d'ailleurs qui prie: Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Il avait cette peur, il avait cette crainte, parce que c'était quelque chose de l'Ancienne Alliance. La Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit établit sa demeure dans le corps du croyant. Hein, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Hein, chaque chrétien, chaque croyant a reçu l'Esprit Saint. Bref, fermons cette parenthèse et continuons. Ce qu'il faut nous rappeler ici, c'est que donc un talent peut être possédé par n'importe qui. N'importe qui. Chrétien ou non chrétien. Mais le don spirituel, les dons spirituels sont entièrement et uniquement conçus pour l'objectif de glorifier Dieu, de servir le Seigneur au sein de l'Église pour les autres, pour nos frères et sœurs en Christ, et ne sont pas à être employés pour des fins personnelles, pour des fins égoïstes. Les talents, par contre, que Dieu nous donne, on peut les utiliser à des fins personnelles. Hein, le talent que le Seigneur donne à une personne, hein, d'être compétent dans un domaine professionnel, bah, il va chercher un emploi, ça va être pour qu'il puisse avoir une rémunération, pouvoir à ses besoins, hein, et puis acheter des choses dont il a besoin, etc., et poursuivre, hein, des objectifs de vie, etc. Ça, c'est les talents. Hein, ils peuvent être utilisés pour glorifier Dieu, mais ils peuvent être utilisés pour des fins personnelles. Les dons spirituels, entièrement pour l'œuvre de Dieu, pas de manière égoïste. Alors comment est-ce qu'on va découvrir maintenant quel est le don spirituel que Dieu nous a confié? Sachez tout d'abord que ces dons spirituels ne vont pas nous tomber dessus de manière spectaculaire ou de manière mystique. Hein, beaucoup de gens ont tendance à croire cela parce qu'ils lisent le livre des Actes. Et ils voient, ah, ils ont reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute, et puis, oh là, il y a des choses extraordinaires, hein, des flammes comme des langues de feu. Et ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ou à d'autres moments, hein, où des chrétiens ont reçu le Saint-Esprit lorsque le serviteur de Dieu a imposé, hein, les mains sur ces personnes, et ils ont reçu le Saint-Esprit. Il y a une chose qu'il faut se rappeler, hein, constamment au sujet du livre des Actes, c'est que c'est une période déjà de transition, hein, de progression, de découverte au sujet de l'Église et même de Dieu lui-même. Hein, cette révélation du mystère de l'Église, d'abord, a été donnée aux Juifs, premièrement, puis aux païens. Les chrétiens juifs ont découvert de nombreuses choses concernant l'Église, sur eux-mêmes et même sur la grâce de Dieu pour les païens. Ils ont découvert plein de choses au sujet de Dieu lui-même, n'est-ce pas? Si nous ne regardons pas au livre des Actes comme cette période de transition, de découverte, où il y a des choses qui étaient spécifiques à certaines assemblées ou même à certains groupes de personnes, il y a des choses que, ben aujourd'hui, si on devait prendre le livre des Actes comme cela, il y a plein de choses qu'on manque complètement. Alors, ne devrions-nous pas, comme l'Église de Jérusalem, mettre tous nos biens en commun? Je crois qu'il y a beaucoup qui sont très réticents à cela. Mais nulle part, il nous est demandé de faire cela. N'est-ce pas? Donc, il faut bien mettre les choses dans leur contexte, lorsqu'on lit le livre des Actes, lorsqu'on étudie le livre des Actes, de se rappeler que c'est cette période de transition vers cette nouvelle alliance, de découverte de l'Église, de Dieu pour beaucoup de personnes. Et nous apprend une chose, ce livre des Actes, c'est que la grâce de Dieu et ses capacités donc surnaturelles, c'est lui qui les accordait. On ne pouvait pas les obtenir par nos propres forces ou même par l'argent. C'était Simon le magicien qui, bien mal lui en a appris, qui voulait acheter le don de pouvoir accorder le Saint-Esprit. Ce n'est pas à nous de chercher à prendre ces dons. On l'avait déjà vu et souligné que le Saint-Esprit, c'est lui qui décide. C'est selon sa volonté. Mais ce qui est certain, c'est que chacun d'entre nous, nous recevons au moins un don de sa part. Il n'y a pas non plus dans les Écritures de prière ou encore moins de formule magique pour connaître le don spirituel que l'on a. Il n'y a pas de test non plus comme, hein, on voit dans les magazines, hein, quelle est votre personnalité? Hein, vous répondez à une série de questions et puis ce sont des gens dans un bureau quelque part qui ont déterminé, ah, si tu réponds comme ça, tu as telle personnalité. Il n'y a pas de test comme ça pour déterminer notre don spirituel. Il y en a qui ont essayé. Moi, je ne crois pas forcément à ces choses-là. Et nous verrons, hein, ce que nous disent les Écritures, hein, concernant ces dons spirituels. Mais voilà, en lisant les Écritures, ce que nous voyons, c'est que à plusieurs reprises, Dieu appelle à son service des personnes qui n'ont pas forcément les capacités à accomplir la tâche que Dieu leur demandait d'accomplir. Beaucoup avaient peur. Beaucoup ont même hésité à suivre le Seigneur et à faire ce que le Seigneur leur demandait. Certains, ils y trouvaient des excuses, hein, comme Moïse qui disait ah, « mais moi je ne parle pas très bien ». Ou même, on pense à ce jeune Samuel. Vous imaginez un petit enfant? Qu'est-ce qu'il connaît de la vie? Mais Dieu lui donne les capacités aux personnes qu'il appelle pour son service. Rappelons-nous que bah, déjà le Seigneur Jésus lui-même, il n'a pas forcément appelé les personnes les plus compétentes pour être ses apôtres. Il n'a pas été chercher, hey, Gamaliel, tu n'as pas quelques bons étudiants là à me passer? Il n'a pas été voir les docteurs de la loi, hey, venez, venez, je vais vous enseigner. Il a été chercher des marins-pêcheurs. Il a été chercher un zélote. Aujourd'hui, on qualifierait cette personne comme vraiment extrême, extrême, extrême droite, un révolté. Il a été chercher un collecteur d'impôts pour le servir. Et ce collecteur d'impôts, c'est même pas à lui qu'a été confiée la trésorerie du groupe. Non, il a confié ça à un voleur. Alors forcément, là on comprend que Dieu, il n'a pas forcément regardé aux capacités que ces personnes avaient pour leur confier ou pour les appeler à son service. Dès le début même de cet épître aux Corinthiens que nous avons regardé au premier chapitre, nous voyons que Paul tout d'abord interpelle les croyants sur plusieurs choses. D'abord, lisons ce passage ensemble, 1 Corinthiens chapitre 1er, versets 26 à 31. Il dit: Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Donc, d'emblée, Paul, il fait ce rappel aux Corinthiens. Les dons que Dieu nous accorde, ce n'est pas parce que nous les méritons. Les dons que Dieu nous accorde, ce n'est pas parce que nous avons une capacité. Parce que sinon, il aurait employé nos capacités, il ne nous aurait pas donné des dons spirituels. Mais il a donné des dons spirituels pour que dans l'Église, nous n'ayons pas ce regard que, ah, tel frère, lui, il a des grandes compétences. Et c'est un professeur. C'est lui qui devrait être pasteur. C'est lui qui devrait prêcher. Mais Dieu ne voit pas l'Église comme ça. Il a fait en sorte que même les personnes qui n'ont pas ces grandes capacités aux yeux du monde, Dieu donne, eh bien, par les dons spirituels, cette capacité, eh bien, spirituelle, surnaturelle, d'accomplir quelque chose pour lui. Et ça a été le cas à travers les Écritures. Vous pouvez regarder, hein, les gens que Dieu a appelés à son service, ce n'étaient pas forcément les plus compétents pour cela. Ce n'est pas non plus la personnalité qui va déterminer le don spirituel que Dieu va vous accorder. Pour ceux qui me connaissent vraiment bien, hein, ceux qui me connaissent peut-être même depuis mon enfance, hein, c'est le cas de notre frère Philippe, ils savent que je ne suis pas quelqu'un d'extraverti. Ils savent que je ne suis pas quelqu'un qui est à l'aise d'aller vers les gens et d'ouvrir des discussions, commencer les discussions. Ce n'est pas dans mon caractère, ce n'est pas dans ma personnalité. Je dois faire un effort à chaque fois, un effort que je fais pour le Seigneur. Je suis même timide dans la présence de personnes que je ne connais pas. Hein, mes proches, ils savent que je n'aime pas être dans une foule. D'ailleurs, priez pour moi parce que demain on veut aller à Berck, là, regarder les cerfs-volants et là il y aura une grande foule. Mais voilà. Dieu va pas regarder à notre personnalité ou à nos capacités. Par contre, il veut que nous nous regardions à sa puissance à lui. Comme on l'a partagé tout à l'heure, Paul nous a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. Une chose qui est certaine, donc dans les Écritures, mais aussi par expérience de vie de chrétien à travers les siècles et même dans ma propre vie, c'est que dès qu'une personne décide, choisit de vivre pour le Seigneur, de servir le Seigneur, de se mettre à son service, de se soumettre à sa volonté, Dieu va pourvoir, Dieu va fortifier, Dieu va énergiser et Dieu, par les dons spirituels, accorde la capacité d'accomplir les responsabilités qu'il nous confie. Et lorsque l'on fait cela, ces dons vont se manifester. Notez également avec moi que les passages qui parlent de ces dons spirituels sont avant tout introduits par un appel à servir. La réalité, frères et sœurs, c'est que le dévouement au Seigneur, la volonté de faire quoi que ce soit pour le Seigneur, pour sa gloire, pour son œuvre, pour l'Église, c'est plus important que la découverte de vos dons spirituels. Et on se dit, mais comment je fais pour servir le Seigneur si je n'ai pas les dons spirituels? Je dois d'abord avoir les dons spirituels pour accomplir le... Mais les dons spirituels, vous les avez déjà, c'est juste que vous ignorez lesquels ils sont. Et donc, ne vous frustrez pas à savoir quel est votre don. Concentrez-vous déjà d'abord à servir le Seigneur. Et au fur et à mesure qu'on sert le Seigneur, c'est là qu'il dévoile, que ce soit à nos yeux ou aux yeux des autres dans l'assemblée, les dons spirituels qu'il nous accorde. Comme on l'a vu, il n'y a pas un passage qui nous dise expressément comme commandement de rechercher les dons spirituels, de savoir quel est notre don spirituel, même avant de pouvoir servir le Seigneur. On a vu que ce passage dans 1 Corinthiens, cette traduction de aspirer aux dons les meilleurs, cette traduction-là, elle mérite une révision selon le contexte, selon la grammaire du grec, là, où on voit que Paul, il peut très bien dire aussi, vous aspirez aux dons les meilleurs. Et moi, je vais vous montrer une voie par excellence. Et il enchaîne avec 1 Corinthiens 13 sur l'amour, etc. Mais Dieu ne nous demande pas de rechercher nos dons. Ce qu'il nous dit, c'est mettez au service des autres les dons que vous avez reçus. Mais il existe aussi de nombreux textes qui nous disent ce que nous devons, ce que nous devons accomplir en tant que chrétiens. Et chose étonnante, ça correspond aussi à des dons spirituels. Par exemple, dans Galates chapitre 5, hein, verset 13, il nous est indiqué, ordonné de servir hein, les uns et les autres. Servir, on a vu hein, dans la liste des dons spirituels, tiens, il y a le don de service, de l'aide. Il nous est commandé de nous exhorter les uns les autres. Et notez bien qu'à chaque passage que je vais te parler ici, il ne dit pas, vous qui avez tel don spirituel, exhortez, servez. Le fait d'enseigner, mon Christ a donné ce commandement à chaque croyant, d'aller de faire de toutes les nations des disciples, de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et de leur enseigner tout ce que je vous ai prescrit. De faire preuve de miséricorde, Paul nous dit de faire cela dans Éphésiens, de marcher par la foi, de Corinthiens 5, 7, ben, voilà, le don de la foi. Hein, etc. Et on voit que Dieu nous demande déjà de faire certaines choses qui correspondent aussi à des dons spirituels. Ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin forcément du don spirituel pour accomplir le service pour le Seigneur. Il nous demande de le faire. Et nous devons l'accomplir, même si nous ne savons pas que nous avons ou non ce don spirituel. Donc il n'est pas forcé d'avoir le don d'exhorter pour exhorter. Le chrétien qui va se dire, bah, moi je n'ai pas le don pour exhorter, alors je vais me taire. Exhortez-vous les uns les autres. Ce n'est pas une question de ne pas se sentir capable d'eux, c'est une question de Dieu demande à ce que nous nous exhortions les uns les autres, et ce, même si vous avez le don ou non. Hein, celui qui a le don d'exhortation, certes, il a une facilité accrue à mettre cela au service des autres. Certains ont plus de facilité pour parler avec les gens. Ils ont plus de facilité pour encourager, pour exhorter. Mais ça ne veut pas dire que, ah oui, non, je sais que lui, il a ce don d'exhortation, je vais le laisser faire. Et si lui, il n'est pas là, qui va le faire? Le passage sur les dons dans Éphésiens chapitre 4, que nous avons déjà eu l'occasion de regarder, commence également par une exhortation à mener une vie digne de notre vocation, à marcher humblement. En Éphésiens chapitre 4, les trois premiers versets, Éphésiens 4, il dit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Et à chaque fois où nous avons donc ces passages qui vont nous parler des dons spirituels, Paul il aura déjà parlé au préalable de ce que nous avons des responsabilités en tant que membres d'une église, d'une assemblée, de servir, d'exhorter, d'encourager, etc., de marcher d'une manière digne de la vocation du Seigneur. Et donc la discussion approfondie ensuite, que nous avons vu dans 1 Corinthiens 12, là aussi, hein, dans l'Épître aux Corinthiens, Paul, il encourage et il exhorte les chrétiens, tout d'abord, à vivre dans une vie de sainteté, d'honorer hein, le corps que Dieu nous a donné, parce qu'il est le temple du Saint-Esprit, et de tout faire. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, « Faites tout pour la gloire de Dieu. » Donc, dans cette optique-là, nous comprenons bien que Dieu, il a mis à disposition des dons spirituels, mais même sans savoir quels sont ces dons spirituels, nous avons déjà tous ces responsabilités-là au sein de l'Église. C'est juste que certains vont avoir plus de facilité que d'autres. Le passage dans Romains chapitre 12, qui nous parle également des dons spirituels, hein, que nous avons des dons différents, il nous rappelle, dès les premiers versets, ce que nous devons faire. Déjà, de nous offrir au Seigneur, d'offrir notre corps, d'offrir notre vie comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Hein, et puis là, Dieu il va nous faire comprendre sa volonté pour nous. Et avec ça, on va vouloir le servir. Il nous dit, verset 3, de ne pas avoir une trop haute opinion, de revêtir des sentiments modestes. Mais il nous rappelle tout de suite après, vous faites partie d'un corps. Et donc, avant de pouvoir servir dans ce corps, il faut que vous compreniez l'importance de se donner au Seigneur. Se donner au Seigneur, se soumettre à sa volonté, même si on ne la connaît pas tout de suite, d'avoir pris cette décision devant lui, « Seigneur, quoi que tu veux que je fasse, dis-moi, montre-moi, et je vais le faire. » Et Paul continue au verset 6, « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Donc celui qui a le don de prophétie, il exerce en proportion de la foi. Celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Celui qui enseigne à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Et que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Tout ça ne sera possible que lorsque, eh bien, nous, en tant que chrétiens, nous avons pris cette décision. Je veux servir le Seigneur. Si nous voulons honorer cette vocation à laquelle nous avons été appelés, si nous voulons être dignes de cette vocation, c'est suivre l'exemple de Christ. Et l'exemple de Christ, il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus ultime que l'exemple de Christ. Il a commencé par faire quoi? Il s'est soumis au Père. Et il a accepté cette mission, cette tâche qui lui avait été confiée de s'humilier, de devenir une créature, lui le Dieu éternel. Il a accepté de servir, lui le Dieu tout-puissant, lui le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il a accepté de s'humilier et d'être au service des autres. Il n'a pas regardé sa vie comme une proie arrachée, mais il l'a donnée pour les autres. Et ça va être la première des choses. On veut savoir, oh, c'est quoi le don spirituel que j'ai? Commencez par réellement vivre pour le Seigneur. Et en vivant pour le Seigneur, en servant le Seigneur, vous allez voir, ah, tiens, Dieu m'a vraiment aidé là, à témoigner à cette personne, à partager l'évangile. Ou Dieu, il m'a aidé à conseiller un frère ou une sœur. Et ça vient pas de moi. Merci Seigneur pour ta sagesse, merci Seigneur pour ton aide, merci Seigneur pour l'Esprit Saint que tu nous as accordé. Mais si nous ne nous mettons pas à disposition du Seigneur, si nous ne nous mettons pas à disposition des autres au sein de l'Église, on ne va jamais savoir quel est le don ou les dons spirituels que Dieu accorde. Donc nous n'avons non plus, dans un certain sens, on n'a pas le droit, si vous voulez, de simplement accepter la grâce de Dieu et puis de rejeter le reste. Je ne sais pas comment ceux qui vous ont amené au Seigneur vous ont présenté les choses, mais il y a une chose qui est claire dans les Écritures, c'est que Jésus-Christ, il n'est pas que Sauveur. Il est Seigneur. Et Seigneur, ce n'est pas juste un titre. Seigneur, c'est que il a un rôle, il a une responsabilité, mais ça implique que si moi je le reconnais comme Seigneur, je dois me reconnaître moi comme son sujet, comme son serviteur. Donc quelque part, je dirais que même de manière éthique, morale, on ne devrait pas avoir le droit d'accepter Jésus-Christ comme Sauveur et de le rejeter comme Seigneur. C'est pas possible. Quelque part, les choses vont même de pair. Rappelez-vous ce que Paul et Silas avaient répondu au geôlier dans Actes 16, 31. Il dit quoi? Crois au Sauveur Jésus? Seigneur. Quand Paul, à ce moment-là, il est encore Saul de Tarse, il est sur le chemin pour Damas, et là, le Seigneur se présente à lui de manière extraordinaire et miraculeuse, la réaction de Paul, sa question qu'il pose, c'est quoi? Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? L'attitude de Paul, là, c'est qu'il a reconnu que Jésus, il est Seigneur. Et il a reconnu en l'appelant ainsi, mais il a reconnu ainsi aussi en se mettant à sa disposition. Que veux-tu que je fasse? Alors, au lieu de courir de droite à gauche et de se demander, mais quel est mon don spirituel? Quel est mon don spirituel? Demandez plutôt, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Mettez-vous à sa disposition. Et donc, si vous vous êtes tourné vers lui pour le pardon de vos péchés, pour le salut de votre âme, vous devriez avoir aussi, eh bien, ce désir maintenant et cette prise de position, de décision, de reconnaître Jésus comme Seigneur de votre vie. Et en tant que Seigneur, eh bien, il nous donne des tâches à accomplir. Il nous a commandé de nous aimer les uns les autres, oui, mais il nous a aussi ordonné, comme j'ai dit, de nous exhorter, de servir, etc. La question maintenant qui doit se poser à chacun d'entre nous, c'est est-ce que je suis fidèlement en train de pratiquer ce que Dieu me demande déjà de faire? Avant de se dire, ah tiens, est-ce que j'ai le don pour enseigner? Est-ce que je suis déjà en train d'aimer l'Éternel? Plus que tout. Vraiment tout. Est-ce que je cherche à lire, à méditer, à étudier, à absorber, à mettre en pratique la parole de Dieu? Est-ce que je mets ça comme une priorité dans ma vie? Est-ce que vous vous aimez les uns les autres comme Christ a aimé? Ou bien juste ceux qui sont bons et sympathiques avec vous? Est-ce que vous servez les autres ou bien vous aidez simplement ceux qui, à vos yeux, le méritent? Est-ce que vous acceptez même d'accomplir les tâches qui ne sont pas les plus glorieuses, mais les plus modestes? Est-ce que vous vous pardonnez réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ? Est-ce que vous priez sans cesse? Est-ce que vous priez les uns pour les autres, avec zèle, avec fidélité? Est-ce que vous vous exhortez les uns les autres? Ou bien vous êtes plutôt une occasion de chute pour les frères et sœurs, que ce soit par vos paroles ou vos actions? Est-ce que vous vous édifiez les uns les autres? Est-ce que vous recherchez les occasions de pouvoir encourager votre prochain? Est-ce que vous participez même de manière régulière à aider l'Église dans les finances? Est-ce que vous aidez dans l'évangélisation, dans le témoignage, ne serait-ce que distribuer les traités? Voyez que il y a déjà tellement de domaines de services. Il y a déjà tellement de choses que le Seigneur nous demande que moi je me dis, faut que je me concentre déjà là-dessus. Je sais que j'ai les dons spirituels, je sais que Dieu les a accordés, mais au lieu de perdre mon temps à savoir lequel c'est, est-ce que j'ai besoin de le savoir pour aimer l'Éternel de toute ma force, de toute ma pensée? Est-ce que j'ai besoin de savoir quel est mon don spirituel pour obéir à Dieu? Mais si vous voulez vraiment servir le Seigneur, il faut comprendre que il y a ce que Dieu nous appelle à faire, il le rend possible. Si j'ai cette attitude de non, c'est pas possible, moi je ne peux pas faire cela. Dans un sens, vous avez raison. Vous avez raison si vous pensez que vous, ben, votre capacité, votre personnalité, votre caractère ne va pas vous permettre d'accomplir ce que Dieu veut pour vous. Mais si on reconnaît cela et qu'à la fois on dit Seigneur, je sais que je suis le moindre de tous les serviteurs, je suis le moindre des chrétiens, mais je veux te servir. Fais de moi ce que tu veux. Comme le petit Samuel, parle-moi, ton serviteur écoute. Et là, Dieu, malgré notre faiblesse, malgré nos incapacités, malgré le fait que ce à quoi il nous appelle, ben, ce n'est pas du tout dans mes compétences naturelles, Dieu dit, viens, je vais te donner la force d'accomplir cela. Donc si vous voulez servir le Seigneur, sachez déjà ces choses-là. Si vous voulez connaître vos dons spirituels, si vous croyez vraiment que ça, c'est important pour votre vie. Oui, ben commencez par faire ces choses-là et vous verrez que petit à petit, que ce soit vous ou les autres autour de vous, ces dons vont être manifestes. Ils vont se montrer. Les gens vont voir en vous, ah tiens, il y a ça maintenant de différent. Et le Seigneur, hein, il permet de donner à cette personne, à ce frère, à cette sœur, la capacité d'accomplir cela pour lui. Rappelons-nous que l'objectif des dons spirituels, c'est que l'Église, dans son ensemble, et je rappelle que l'Église, eh bien, ce sont les chrétiens, les croyants nés de nouveau, hein, qui sont ensemble, qui se réunissent. Rappelons-nous que l'Église, son objectif, eh bien, c'est que nous puissions croître, que nous puissions grandir, que nous puissions être renforcés dans notre foi, que nous puissions également, eh bien, nous amener à être ce que Dieu veut de nous, hein, que nous soyons saints, que nous puissions être renforcés par, eh bien, cet apport spirituel, hein, qui nous est apporté par l'Église. Alors maintenant, si vous avez des difficultés à savoir ben, où est-ce que je peux aider, où est-ce que je peux servir dans l'Église. Hein, vous pouvez toujours venir me voir ou voir notre frère Philippe, mais il y a tellement de choses, que ce soit déjà par vos talents naturels, mais aussi juste le fait de je veux servir le Seigneur. Peu importe, je ne sais pas quel don spirituel il m'a donné, mais je veux le servir. Il y a tellement de choses que nous pouvons accomplir. Mais en règle générale, ce sont plus souvent les autres qui vont voir en nous ces dons se manifester. On peut prier, on peut demander à Dieu de nous révéler cela. Mais ce que je veux surtout souligner, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas besoin de savoir quel est le don que Dieu nous a accordé pour le servir. S'il faut, c'est cette même attitude que ce jeune Samuel. Parle car ton serviteur écoute. S'il nous faut, c'est cette même attitude que l'apôtre Paul sur la route de Damas. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Dieu appelle certains à enseigner et leur accorde le don d'enseigner. Il appelle d'autres à devenir des serviteurs et il les bénit avec le don de l'aide, de l'encouragement, de l'exhortation. Mais encore une fois, ce qui est certain, qui ne fait aucun doute quand on lit les Écritures, c'est que le fait de ne pas connaître spécifiquement quel est notre ou nos dons spirituels ne nous dispense pas de servir dans ces domaines. Imaginez, imaginez s'il fallait dépendre d'une personne pour l'encouragement. Imaginez s'il fallait dépendre d'une personne pour les finances de l'Église. On serait vite obligé de fermer les portes et puis on se réunirait peut-être dans un parc quelque part sous la pluie. Parfois, il nous faut juste comprendre que peu importe ce que Dieu nous demande, il veut que nous nous mettions à sa disposition, même si on n'a pas les compétences, même si on ne se voit pas en train de faire ça, non, ce n'est pas pour moi. Si j'avais eu cette attitude-là, et probablement je l'ai eu au début, mais si j'avais eu cette attitude-là et que j'avais continué à maintenir cette attitude de bah, j'ai pas ces capacités, c'est pas pour moi, je ne serais pas là aujourd'hui. Ni notre frère Philippe. Dieu, il nous appelle à son service, et je crois que bon, j'ai déjà partagé un peu ces choses-là aussi avec vous une ou deux fois, que ça nous est arrivé que des pasteurs nous aient dit à Philippe et moi, vous ne devriez pas être dans l'implantation d'église, vous devriez simplement être pasteur d'une église quelque part. Il y a tellement d'églises qui ont besoin d'aide, et on reconnaît cette aide, et ça nous attriste qu'il y ait tant d'églises qui n'aient pas de pasteur. Mais ça n'a rien changé au fait que nous étions convaincus que ben Dieu, il voulait que nous soyons ici, à Amiens, et que nous continuions d'œuvrer. Même si, moi je vais vous dire, moi je ne me vois pas comme ayant le don d'évangéliser. Par contre, comme Paul, il a dit à Timothée, il lui a dit, et Timothée, c'était un jeune pasteur, hein, il avait la charge d'une église, il lui a dit quoi? Fais l'œuvre d'un évangéliste. Donc même si tu n'as pas le don pour évangéliser, ça n'enlève en rien notre responsabilité. Eh bien, déjà, un, de prêcher l'évangile, et c'est ce que nous efforçons de faire aussi quand nous avons l'occasion de prêcher, de partager de manière succincte l'évangile, mais aussi que ce soit par simplement de distribuer les traités. Hein, c'est une chose toute banale, toute simple. Mais vous pouvez aussi comprendre que même pour moi, bah, avec ma personnalité, qu'il m'est difficile d'approcher les gens et de commencer à leur parler des personnes que je ne connais pas, Dieu me demande quand même de le faire. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Et parfois de saisir les occasions de parler du Seigneur, peu importe où on se trouve. Si donc, pour conclure, je répète juste une dernière fois encore. Si on s'engage déjà à être utilisé de Dieu, il va à ce moment-là activer ses dons spirituels. Les dons, ils sont déjà accordés, mais il va les activer, si vous voulez. Si nous sommes soumis au Seigneur, si nous sommes disposés à le servir, peu importe le domaine, peu importe la difficulté, peu importe le don, alors, croyez-moi, on va devenir entre ses mains, eh bien, des instruments précieux. Vous savez? Ce n'est que lorsqu'un instrument est joué que sa nature, que sa valeur, que sa place va se révéler. Imaginez, c'est comme si vous aviez un chef d'orchestre aveugle, un non-voyant. Et il sait qu'il a à sa disposition plusieurs instruments, hein, il y a plusieurs possibilités. Et on va peut-être lui faire écouter un violon. Ah, il va dire, ah ben ça c'est un violon. Ah, je vais pouvoir utiliser cet instrument comme un violon. Et ah ben sa place, elle est par là. Ah, c'est que en se mettant au service du Seigneur que Dieu va nous révéler ce que nous sommes. Si nous sommes des violons, si nous sommes des cymbales, si nous sommes des tambours, si nous sommes des violoncelles, peu importe. Mais quand on va se mettre à la disposition de celui qui joue l'instrument, de celui qui dirige l'orchestre, eh bien on va voir. On va voir ce à quoi Dieu nous a appelés. Voulez-vous glorifier Dieu? On le dit de notre bouche, on le chante les dimanches matins, mais voulez-vous glorifier Dieu? Ça commence par bien se donner à lui. Lui s'est donné entièrement à nous, il nous a montré l'exemple. Et il attend que nous, nous nous donnions entièrement à lui également, pour son service, pour sa gloire, pour le bénéfice de chacun. Lorsque donc nous nous mettons ainsi à disposition du Seigneur, il nous dirige vers le service qu'il veut qu'on accomplisse pour lui, afin que, en toute chose, comme Pierre nous le dit, en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance. Comment savoir les dons spirituels qu'on en a? Le point de départ, ça a toujours, ça sera toujours la croix, s'agenouiller devant Christ, le reconnaître comme sauveur, comme Seigneur, et de décider de vivre pour lui et comme lui. Et là, Dieu va nous montrer, toi, que tu es là, et je te donne ça pour l'accomplir. Et même si je ne te donne pas ça pour l'accomplir, tu peux quand même faire de ton mieux dans ce domaine-là. Prions. Père, je te glorifie de ce que tu n'as pas regardé à nos compétences. Parce qu'il est évident que nos compétences par rapport à ta puissance ne valent absolument rien. Et Seigneur, merci de ce que par l'Esprit Saint, tu accordes à tes enfants bien ces capacités extraordinaires de pouvoir te servir, de pouvoir aider au sein de l'Église, de pouvoir participer à ce corps que tu as constitué. Et Seigneur, que cela soit clair et évident pour chacun d'entre nous, que peu importe ce que nous sommes, si nous sommes une main, si nous sommes un genou, si nous sommes un bras, peu importe, Seigneur, nous avons notre place, une place que tu nous as accordée en Jésus-Christ. Nous avons une fonction, des rôles, des responsabilités que tu nous as accordés par l'Esprit Saint. Mais Seigneur, il est clair que tu nous as appelés à faire partie de ce corps et à agir de manière active dans ce corps. Et je prie pour que chacun d'entre nous, eh bien, nous ayons cette même attitude, que tes serviteurs qui sont mentionnés à travers les Écritures, qui se sont soumis à ta volonté, et même pour beaucoup, au péril de leur vie. Mais c'est parce qu'ils avaient une entière confiance en toi. Et ils savaient que, au-delà des difficultés et des souffrances de cette vie, eh bien, après la mort, il y a la vie éternelle dans ta présence. Il y a cette joie, cette paix, cette bénédiction éternelle que tu nous as accordée en Jésus-Christ qui nous attend. Et ça nous aide aussi, ça nous permet d'accepter ce que tu veux pour notre vie. Mais Seigneur, je prie pour que, eh bien, ton Esprit Saint puisse travailler les cœurs de chacun d'entre nous, que nous nous humilions devant toi et que nous acceptions de te servir, de ne pas avoir simplement accepté, oui, c'est bon, j'ai cette grâce, je suis sauvé, merci, mais ensuite de ne rien te donner en retour, d'être comme ces 10 lépreux qui ont été guéris, mais qui ils n'ont pas remercié Dieu, ils n'ont pas remercié Christ. Il n'y en a qu'un seul qui soit revenu et qui l'ait remercié. Seigneur, que nous soyons plutôt comme ce dernier. Que nous considérions sérieusement cette grâce que tu nous as accordée. Et quand nous faisons ça, on est obligé de se demander, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Seigneur, utilise-nous, trouve en nous ces serviteurs et ces servantes, ces instruments. Seigneur, et que entre tes mains, nous puissions accomplir l'œuvre que tu nous as appelé d'accomplir au sein de cette Église, mais aussi en dehors de l'Église, en partageant ta parole, ton évangile autour de nous. Seigneur, bénis mes frères et sœurs, aide-nous au cours de cette semaine, aide-nous à méditer ce que nous avons vu ce matin, mais surtout à mettre en pratique et à saisir les occasions de te servir. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je vous remercie chacun pour votre attention.